Je pense donc je suis, voilà mon titre pour le message sur Romains 12, 1 et 2 qu'on a entendu tantôt. Cette phrase de René Descartes, je vais un peu la déformer, je vais un peu l'utiliser dans un autre sens ce matin, vous allez voir. Mais vous verrez que les mots ont un sens par rapport à Romains 12. On continue notre série « Jésus transforme ma manière d'être ». Et je voulais vous parler d'un témoignage que j'ai lu à l'Internet. J'ai même vu des petites vidéos sur un jeune couple chrétien, qui était jeune il y a une dizaine d'années. Ils sont encore assez jeunes quand même. Un jeune couple qui était fiancé, Larissa et Ian. Comme tous les jeunes couples qui vont se marier, ils étaient vraiment pleins d'enthousiasme et de joie et d'amour et d'expectative quand, soudain, le fiancé Ian, on apprend la nouvelle, il est victime d'un terrible accident de voiture. Ça s'est passé en 2005. Et il en est sorti paraplégique. Et il en est sorti avec des dommages cérébraux importants. Au début, il ne parlait même pas, Ian, et donc Larissa se disait, mais c'est à moins d'un miracle, parce qu'elle priait, à moins d'un miracle, mais le mariage n'est plus une possibilité. Il faut au minimum que mon fiancé, mon mari, puisse communiquer avec moi. Et il s'est remis à parler, mais les dommages cérébraux étaient quand même importants. Il en est sorti un homme handicapé. Mais Larissa, elle a recherché la volonté de Dieu là-dedans. Elle aimait cet homme, elle aimait Ian, et elle a librement décidé d'épouser Ian quand même. Et lui, de son côté, a accepté de se marier avec Larissa. Ils se sont mariés en 2006. Et ce que Larissa explique, pourquoi elle a pris cette décision, elle dit qu'en méditant sur la raison d'être du mariage chrétien, elle a vu que les raisons de augmenter mon bonheur personnel, augmenter le bonheur personnel des deux personnes impliquées, c'est une raison secondaire au mariage chrétien. C'est une raison pour se marier, mais c'est une raison secondaire. Augmenter l'enrichissement de nos vies, obtenir satisfaction de mes besoins, faire et élever des enfants ensemble, c'est toutes des raisons pour se marier, mais ce qu'elle comprenait, ce sont toutes des raisons qui ne viennent pas en premier. Ce qu'elle a méditer, c'est que la raison première pour le mariage, glorifier Dieu en rendant visible le symbole de l'amour de Christ pour son Église dans le monde, en s'aimant l'un l'autre. Et que le mariage est aussi un symbole de l'amour indéfectible, de l'engagement indéfectible de Christ pour son alliance avec le peuple de Dieu. Et donc, en discernant cela, elle a dit, mais elle a senti que Dieu l'invitait à faire quelque chose d'inhabituel, même de choquant, et elle s'est engagée dans ce mariage. Ils sont encore mariés aujourd'hui. Quelle décision risquée! Elle en parle dans son blog, que des fois même, elle est découragée. Des fois, ça va très bien, des fois, ça va pas bien du tout. Elle est même critiquée par du monde qui ont dit, mais fallait pas faire ça, Larissa. Si t'es déjà mariée, oui, mais si t'es pas encore mariée, pourquoi te lancer dans toutes ces difficultés? Un mariage où elle savait d'avance qu'elle sacrifiait beaucoup de ses espoirs humains normaux. Une chose est sûre, c'est que ceux qui sont ses fans et ceux qui sont leurs fans et ceux qui sont leurs détracteurs, on est tous ramenés à la croix de Christ par le témoignage de leur relation qui dure, de leur amour qui se poursuit. Et donc, il y a quelque chose de surprenant ici et qui nous ramène à notre texte, que dans la nouvelle façon de penser du chrétien, de la chrétienne, même les mauvais coups qu'on vit, les obstacles, les désastres, peuvent devenir des possibilités de succès. Revenons à notre texte qu'on a lu tantôt. Merci beaucoup à notre lectrice qui l'a bien lu, mais on va quand même le relire parce qu'il est court et il est important. Donc, il faut que je garde le micro proche de moi. Donc, je vais le lire moi-même dans le micro. Et vous pouvez suivre ici ou dans votre Bible. Donc, je vous encourage donc, c'est Paul, hein, Paul qui écrit ici aux Romains. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, j'ai pensé qu'une bonne approche pour ce texte, c'est d'y aller cursivement, une expression à la fois, en essayant de donner des explications utiles pour vous et, quand c'est possible aussi, des mises en pratique, des pistes de mise en pratique. C'est une forme de prédication qui était très populaire dans des époques passées. On appelait ça les sermons expositionnels, où on y va comme verset par verset ou expression par expression ou mot par mot. Donc, on va essayer ça ce matin, d'accord? Et tout ça pour nous amener à comprendre comment répondre à l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, allons-y. Premièrement, oh là là, ça n'aide pas hein, de le mettre en bleu, mais bon. On va regarder la première expression ici. Je vous encourage donc, frères et sœurs. Alors, c'est un tournant dans l'Épître aux Romains. Et Paul passe de la théorie à la pratique. Il dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs. » Donc, j'aimerais parler du mot « donc » ici. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être pas, hein? Le mot « donc » se réfère à ce qui est venu avant. Les 11 premiers chapitres de Romains, c'est quand même assez long, résument tout l'Évangile. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que l'Évangile nous amène à quelque chose de pratique, à une manière de vivre. Et on va voir une manière de penser qui est derrière la manière de vivre. Je vous encourage donc, ces 11 premiers chapitres, qu'est-ce qu'ils disent? Paul résume le fait que la bonne nouvelle de Jésus-Christ commence avec la mauvaise nouvelle que nous avons un problème. Tous les humains sont séparés de Dieu par cette tendance au péché, par cette rébellion contre Dieu qui se manifeste différemment dans différents humains, mais c'est tous le même problème, c'est tous la même rébellion. On est sous le jugement de Dieu qui est saint, mais, bonne nouvelle, on est gratuitement justifié par la foi, par le salut en Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix. Et donc, ça met tous les hommes au même niveau, les juifs, les non-juifs, les philosophes, les barbares, les hommes, les femmes, les esclaves, les libres, et on est tous justifiés de la même manière. Et là, il faut se poser la question, mais comment est-ce qu'on va vivre? Bonjour Willy, je ne t'avais pas vu. Donc, comment est-ce qu'on doit répondre à l'Évangile? C'est là où le donc entre en jeu. Et ce que Paul a déjà dit avant, c'est qu'il y a des manières de répondre religieusement à l'Évangile qui sont plus appropriées. La première dont il parle beaucoup, c'est la religion des bonnes œuvres méritoires, hein, qui est déjà critiquée beaucoup dans l'Ancien Testament, mais là, dans le Nouveau Testament, c'est encore plus clair que vive ta vie un peu sans t'occuper de Dieu et puis venir au temple ou à l'église le dimanche pour faire des sacrifices d'action de grâce, pour un peu compenser pour tes péchés et essayer d'impressionner Dieu, lui faire plaisir. Non, ça ne marche plus. Ce n'est plus du tout ça. Ça n'a jamais été ça avec Dieu. Donc, ça n'a plus sa place. Par contre, la religion du laisser-aller, de « je vais être authentique avec mes désirs, avec mes besoins », ça, c'est plus bon non plus. Et ça, c'est une religion quand même de plus en plus populaire aujourd'hui. Les gens vont dire, mais si Dieu existe, puis il m'aime, et même des chrétiens qui vont dire, si Dieu m'a sauvé, mais qu'est-ce qu'il veut, c'est que je vive selon mes désirs. Et là, tu vas retomber dans le péché, tu vas retomber dans la rébellion. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Paul va aussi critiquer l'élitisme des philosophes, des gens éduqués, qui disent, ben, en fait, le monde ordinaire, de toute façon, ne sont pas capables de bien vivre, mais nous, les gens instruits, les gens bien pensants, les gens intelligents, on va sauver l'humanité en commençant par notre propre philosophie. Ça, ce n'est pas bon non plus. L'Évangile nous amène vers quelque chose de tout à fait nouveau. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, ce qu'on voit aussi dans cette première expression, le mot « encourage », c'est un mot doux. Paul aurait pu dire « je vous commande de faire quelque chose ». Et ce qu'on voit, c'est que la foi de l'Évangile nous amène à une réponse à Dieu qui est personnelle, une réponse à Dieu qui vient du cœur, une réponse à Dieu qui demande aussi une réflexion par rapport à ma propre situation. D'accord? Donc, je réponds par quelque chose qui vient du cœur. Paul aussi dit, frères et sœurs, il se met au même niveau que vous et moi. On va continuer. Paul dit, par les compassions de Dieu. Donc, je vous encourage donc par les compassions de Dieu. Donc, dans ta réflexion personnelle sur comment vivre ta vie en Christ, rappelle-toi des compassions de Dieu. Savais-tu que Dieu a eu compassion de toi? Que Dieu a compassion de toi? Et cette compassion s'appelle Jésus-Christ. Amen. Envoyé par Dieu, prédestiné de toute éternité pour venir te sauver, toi. Dieu t'a tellement aimé, il nous a tellement aimé, que Paul nous rappelle, on a été justifié gratuitement, qui n'a plus aucune condamnation, que tu es maintenant une fille adoptive, un fils adoptif de Dieu, que rien ne peut te séparer de Dieu, tu as la paix avec lui. Il t'a même donné l'esprit qui te rappelle de dire « papa » à Dieu. On a vu il y a 2 semaines aussi que tu es appelé bien-aimé. Vous vous souvenez de l'exercice qu'on a fait? Vous vous êtes tourné vers votre voisin et vous lui avez dit, « Je suis bien-aimé de Dieu, je suis aimé. » Est-ce que tu te souviens ce matin que tu es aimé de Dieu? Oui, Pascal, tu es aimé de Dieu? Je suis aimé. Dites-le avec moi. Je suis aimé. Dieu a eu compassion de toi. Il savait, il a un plan pour toi. Et pour tous les hommes, il les invite juste à se tourner vers Christ. Donc, ça veut dire, je vous exhorte, je vous encourage, frères et sœurs, en vous souvenant de la compassion de Dieu pour toi. Et là, il va continuer. Il va continuer. Il va dire ceci. Et c'est le commandement peut-être le plus important du premier verset. Offre ton corps comme un sacrifice. Offre ton corps comme un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, dans l'expérience d'Israël, il y avait beaucoup de sortes de sacrifices qui étaient demandés par Dieu. Et dans cette ancienne alliance, les sacrifices étaient donnés, les hommes les pratiquaient pour, en quelque sorte, maintenir leur bon standing avec Dieu. Ils péchaient, ils sacrifiaient. Et c'était une manière de dire, il faut payer un prix pour maintenir, pour rétablir la relation avec moi, pour rester dans l'alliance avec moi. Mais en fait, c'était juste un symbole pour Christ qui allait venir. Parce que c'est lui le sacrifice ultime, le seul sacrifice qui est nécessaire. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, dans ce que nous, on vit maintenant, les sacrifices de ce type-là sont plus nécessaires. C'est Christ ton sacrifice. Et il y en a juste un seul. Il y en a juste un seul. Et tu es maintenant établi pour toujours dans la relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Offre ton corps comme un sacrifice. Bien, premièrement, tu n'as pas à mourir. Tu n'es pas comme l'animal qui devait mourir à ta place. Tu offres ton corps vivant comme instrument pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à chaque jour, tu peux offrir ton corps pour que Dieu l'utilise pour le travail qu'il reste à faire. Amen. Il faut comprendre ça. Pensez à Larissa un instant. Revenons à cet exemple du début. On peut être d'accord avec elle ou on peut dire qu'elle a manqué de sagesse, elle a été trop loin. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle a dit, je vois une occasion, je sens que Dieu me donne une occasion d'offrir mon corps pour être l'instrument de l'amour de Dieu dans le monde. Un instrument pour communiquer quelque chose à propos de Christ dans mon monde à moi. Elle l'a offert, puis semble-t-il que Dieu a accepté l'offrande, et voilà, maintenant, elle le vit. Mais ce n'était pas juste une fois, elle continue. Elle continue à chaque jour, et son mari aussi, Ian aussi, à offrir son corps. Le corps, c'est le corps, c'est ça ici, là. Les bras, les mains, les pieds et tout. Mais le corps dans la Bible, c'est notre situation concrète dans notre monde concret. Ça nous amène à nos actions, ça nous amène à notre vie. Donc, offre ton corps, c'est offre ta vie jusque dans tous les détails de ton impact dans ton monde. Ça peut impliquer des grosses choses. Mais ça implique aussi beaucoup de petites choses. Donc, j'ai dit que tu n'as pas besoin de payer pour ton salut comme peut-être certains Israélites s'imaginaient avec leur sacrifice d'animaux. Ils prenaient quelque chose qui valait beaucoup d'argent et ils le brûlaient. Ils le brûlaient pour un genre de... C'était comme un genre de prix pour expier leurs péchés devant Dieu. C'est le symbole de Christ. Nous, nous n'avons plus rien à payer. Cela dit, le sacrifice de mon corps, est-ce que ça coûte quelque chose? Oui, Parce qu'il y en a qui pensent que c'est facile. Vous avez raison. Ça coûte quelque chose. Cela étant dit, le coût que ça va te coûter, nous dit la parole de Dieu, est petit à comparer à ce que tu as déjà reçu. Le coût que tu auras à donner, le sacrifice que tu fais par rapport à tes désirs, par rapport à tes espoirs, t'es compensé au centuple. T'es compensé au centuple. Je lisais quelque part que quand tu te mets dans une situation pour Dieu où tu es tellement mal parce que le seul moyen que ça réussisse, c'est si Jésus le fait à ta place, c'est là où tu vois la gloire de Dieu. C'est là où tu vois Dieu à l'œuvre. Et ça t'amène une joie indescriptible. Donc, oui, il y a un coût à payer, mais il vaut la peine. Offre ton corps en sacrifice. Allons un peu plus loin avec les trois adjectifs qui suivent. Le sacrifice, il est vivant, il est supposé, en tout cas, être vivant. Il est supposé être saint et est appelé à être agréable à Dieu. Vivant, c'est le contraire de mort. Tu ne meurs pas. Tu donnes ta vie pour être un instrument de Dieu dans le monde. Vivant veut aussi dire tous les jours. Tous les jours, c'est à renouveler. Un sacrifice vivant, c'est dynamique. Et il y aura des hauts et des bas. Il y aura aussi des circonstances différentes. Ton sacrifice va s'adapter. Peut-être que tu viens du Cameroun ou de Côte d'Ivoire. Et peut-être que dans ta situation en Côte d'Ivoire, était assez spéciale et ton sacrifice vivant prenait une forme particulière. Et maintenant, tu habites ici à Montréal, dans des nouvelles situations, il faut que tu adaptes ton sacrifice vivant. Puis Jésus va t'aider. Il va t'aider à voir c'est quoi. C'est quoi que ça va être ici. Et des fois, c'est difficile parce qu'on veut offrir quelque chose qu'on pense est la bonne chose, puis il faut s'adapter. Je suis toujours étonné, émerveillé par les nouvelles que j'entends des pasteurs de l'Alliance chrétienne et missionnaire, parce qu'on parle beaucoup de la mission dans l'Alliance chrétienne et missionnaire. Puis je pense que c'est bien, parce que notre nom le dit, on est une alliance missionnaire, n'est-ce pas? Mais les pasteurs qui arrivent à la retraite, c'est pas rare d'entendre que, au lieu de dire, comme moi, je m'imagine que je ferai, « Wow, j'ai 65 ans, c'est le temps de me reposer. C'est le temps de penser un peu à moi-même. » Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils font? On entend qu'ils partent en mission. Ils se mettent à apprendre une nouvelle langue. Et puis, ils sont partis en Chine, ils sont partis à telle place avec leur épouse. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est qu'ils sont en train d'offrir le sacrifice vivant. Et ça n'arrête pas à 65 ans. Bien, est-ce que je me trompe? C'est-tu passé 65 ou le sacrifice vivant? Non? Oui. Luce, qu'est-ce que tu en penses? C'est maintenant. Peu importe notre âge. Chacun dans sa situation particulière. Saint, il faut que ton sacrifice soit saint. Saint et sacré, deux mots en français qui se ressemblent. Saint, on pense plus aux vertus dans notre langage à nous. Sacré, on pense à quelque chose de séparé. Puis c'est un peu des deux. Dans le langage du christianisme, nous sommes des saints. Ça veut dire qu'on est mis à part et on doit avoir un caractère à part pour être des instruments utiles pour Dieu. On est des saints parce que Dieu nous a carrément mis à part en mettant son esprit en nous. On doit devenir saint aussi en développant cette façon d'être différent. Mais non pas comme dans, disons, le monde humain de la religion. On voit que dans beaucoup de religions, ce qui est sacré est tabou. Hein? Et même des fois dans l'Ancien Testament, ça va jusque-là que donc, le tabernacle est sacré. Il ne faut pas que la personne profane y touche, sinon il peut mourir là. Hein? On a peur du sacré. En fait, on voit que Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on vienne à lui le cœur pur pour s'approcher de lui. Et on voit que Jésus, l'être humain le plus sacré, le tabernacle le plus sanctifié qui est jamais venu sur la terre, s'est approché des pécheurs, s'est approché de tout ce qui est impur et profane pour le transformer. Alors, voyez comment Dieu est. Il veut qu'on devienne des sacrifices saints de cette manière-là aussi. Un peu comme la brosse à dents d'un pasteur que j'avais entendu il y a plusieurs années, la brosse à dents sainte qu'il avait, parce que lui, dans sa maison, il avait 4 brosses à dents, ce pasteur-là, 4 brosses à dents. 3 dans les 2 salles de bain de la maison pour brosser ses dents, puis la 4e, c'était pour ses souliers et ses bottes, pour les nettoyer. Alors, dans son armoire où il gardait toutes les choses pour nettoyer ses souliers et ses bottes, il avait de la cire, il avait toutes sortes de chiffons, des différentes affaires, des produits, et une brosse à dents sainte, mise à part, pour frotter les bottes, pour enlever les petites, ouais. Et l'idée, c'est une fois qu'elle a été sanctifiée pour les bottes, il ne faut pas qu'il la remette dans la salle de bain. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, de la même manière, vous me direz, c'est plutôt le contraire. C'est celle pour mes dents qui est sainte et l'autre est profane. Mais vous comprenez l'idée. On est mis à part. Tu es mis à part. Et il faut que tu sois à l'écoute de Dieu. Il y a peut-être des choses dans ta vie que Dieu veut enlever pour que ça soit plus clair que tu as cette fonction spécial de sacrifice vivant sur la terre. J'aimerais rajouter par rapport à ça que si on dit qu'on est saint, si on dit qu'on est des chrétiens nés de nouveau, si on dit, ben moi, je suis un enfant de Dieu, les gens vont tout de suite penser, ils pensent lui qui est meilleur que moi. Et j'aimerais vous proposer de dire à vos amis, vraiment, je ne me vois pas meilleur que toi. Je me vois au même niveau que toi. Mais c'est juste que le Dieu que je sers, c'est le plus grand que tous. Il est plus grand que toi et moi. Il est plus grand qu'on peut imaginer et il est à l'œuvre. C'est ça ma sainteté. Ce n'est pas que moi je suis grand. Je veux me mettre petit pour être le témoin de ce Dieu plus grand que toi et moi. Puis, agréable à Dieu, c'était le dernier adjectif ici que Paul ajoute, agréable à Dieu. Alors, pour devenir un sacrifice agréable à Dieu, il faut que tu te mettes à l'école de Dieu pour apprendre à découvrir il est comment Dieu, c'est quoi qu'il aime. Et vous savez qu'on disait dans l'Ancien Testament les sacrifices de bonne odeur. Hein? Dieu était comparé un petit peu, excusez-moi, là, j'utilise un exemple un peu, pas sexiste, mais un peu ancien, vieux jeu. L'homme de famille qui rentre à la maison après une longue journée de travail et il sent, oh wow, le rôti de bœuf à l'ail. Oh, ça sent bon. Oh chérie, merci. C'est comme le repas de bonne odeur, ça fait plaisir. Et en quelque part, Dieu est un petit peu comparé à ça qu'il sent le sacrifice qui brûle, l'animal qui est en train d'être immolé, brûlé sur l'Holocauste et tout ça. Et ça lui fait plaisir dans ses narines. Bon. Aujourd'hui, ça se passe autrement. Alors, premièrement, les hommes cuisinent. Moi, j'essaye des fois, mais est-ce que je ne sais pas si c'est un mets de bonne odeur? Ça dépend. Mais beaucoup plus important, c'est que ce qui est agréable aux narines de Dieu aujourd'hui, c'est que dans notre cœur, on est conscient du caractère de Dieu, des choses qu'il aime. Et comment? C'est en apprenant, c'est en se mettant à son école. Donc, moi, je dirais, soyons zélés pour profiter des occasions, des cours qui sont donnés. Le cours Kairos, par exemple, qu'on va donner quelque part en 2019. Quel cours merveilleux pour mieux connaître qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. C'est un exemple. Mais il y a d'autres cours aussi. Il y a les cours à l'ETEC. Il y a les cours qu'on donne modestement dans notre église. Le cours de découverte de Dieu. Venez, soyez un peu plus ambitieux pour découvrir ce qui est agréable à Dieu puis comment il est. Venez plus souvent le dimanche matin pour écouter. Vous allez me dire, oui, mais on a l'Internet, Marc. On écoute des blogs, on est correct. Mais je pense que priorisons l'apprentissage ensemble. Parfois, les blogs et tout ça, c'est bon aussi. C'est bon aussi, mais parlons les uns aux autres. Des fois, on peut tomber sur des choses à l'Internet qui nous envoient dans une direction qui est peut-être pas la meilleure. Et on a besoin les uns des autres. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et j'avais traduit dans le courriel que je vous avais envoyé. C'est là votre service logique. C'est la seule réponse logique. Offre ton corps, offre ta vie chaque jour, Seigneur. Devant ce défi, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Devant cette nouvelle situation, comment est-ce que je peux, moi, répondre à la compassion que j'ai reçue, à la grâce que tu m'as donnée en Christ, à ce sang qui a coulé pour moi? Pas la religion des œuvres méritoires, pas le laisser aller à mes propres désirs, pas l'élitisme des philosophes, mais cette religion simple qui est, Seigneur, je m'humilie avec mes frères et sœurs et avec eux, je te demande, dis-moi la prochaine étape. Alors, le prochain verset, le verset 2 qui dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et c'est là, hein? « Je pense, donc je suis. » Il faut commencer par comment on réfléchit. Et c'est pour ça que je dis que c'est doux. C'est doux, la foi chrétienne. C'est pas sévère. Je vous ordonne, suivez les commandements. Non, c'est réfléchissez. Réfléchissez à la lumière de cette compassion que Dieu t'a donnée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puis, il faut dire une chose, c'est que, avant de dire ça, Paul dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Il y a une force opposée. Une force opposée, notre monde nous veut mouler notre façon de penser, qui dit ceci, mon épanouissement, ma prospérité personnelle, c'est mon droit, c'est mon bien le plus précieux. Et mes occasions de les saisir, c'est entre mes mains, puis mes occasions sont limitées. Alors, je dois me battre, je dois combattre, parfois contre les autres, pour recevoir satisfaction. Puis c'est ça la priorité numéro un dans ma vie. Puis on se respecte les uns les autres dans le fait que c'est ça qui est important. Mon épanouissement, ma prospérité. Ne vous conformez pas à ce qu'enseigne le monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'Évangile dit quoi? Dit ceci. Tu as déjà tout reçu de Dieu, généreusement, par sa compassion. Tu as tout reçu sans le mériter. Donc maintenant, tu peux librement donner de toi-même. Tu as déjà tout reçu librement et sans le mériter. Tu peux librement donner de toi-même. Je pense à cet étudiant qui est arrivé à l'UQAM. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais ça m'a tellement frappé. Il s'appelait Lambert. Il arrivait un chrétien à qui venait du Cameroun et il avait trouvé le dernier lit dans la résidence étudiante à l'UQAM. Il rentre là, il y avait 4 autres étudiants. Il rentre parce qu'il était en retard. Il était en retard dans la rentrée scolaire. Et les 4 étaient déjà là, installés. Il lui ouvre la porte, mais ils sont en pleine chicane parce que personne ne faisait le ménage. Personne ne faisait la vaisselle. Puis la conversation a tourné en rond. C'était, mais pourquoi est-ce que moi, je ferais du ménage quand toi, tu n'as pas fait ton ménage? Mais pourquoi est-ce que moi, je ferais mon ménage quand toi, tu n'as rien fait? Et puis ça tournait en rond. Puis Lambert, il passe. Il le remarque quasiment pas. Il rentre dans sa chambre. Il dépose ses valises, il se met à prier. Seigneur, sors-moi d'ici. Mais il y a quelque chose qui est arrivé par rapport au renouvellement de l'intelligence. Dieu lui a comme donné une idée. Il sort de là, les gars sont encore en train de se chicaner. Il rentre à la cuisine, il commence à faire la vaisselle. Il vient juste d'arriver. Après ça, il trouve la vadrouille, il trouve la chaudière, il met de l'eau dedans, il met le détergent dedans, il commence à nettoyer, il commence à mettre les vidanges dans le sac à poubelle. Les gars, ils se mettent à l'aider, et puis tout d'un coup, le gars, il devient comme un chef d'équipe, puis il dit, OK, là, les gars, on va s'asseoir, on va organiser des repas en commun pour organiser notre vie ensemble. Renouvellement de l'intelligence. Il me semble que ça aurait été intelligent humainement de sortir de là, peut-être même de retourner au Cameroun. Mais il a discerné quelque chose de surnaturel. Et comme Larissa, Lambert a discerné quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Alors, quand on en est rendu là, mes frères et sœurs, qu'on est en train de réfléchir, mais entre les différentes possibilités de bien que je peux faire dans cette situation, laquelle est la meilleure de toutes? Il me semble qu'on vit dans la joie. Il me semble qu'on vit dans la liberté. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Bon, des fois, on est dans des situations de grande souffrance aussi. Mais là aussi, on apprend à discerner. On va conclure. On va conclure. Alors, voilà. Concluons en relisant le verset. Peut-être qu'on peut le lire à voix haute tous ensemble. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Laisse ta pensée sur ta vie à être changée par la contemplation de l'amour de Dieu pour toi, manifesté par Jésus sur la croix, manifesté aussi par l'Esprit de Jésus qui vit en toi. Offre ta vie comme un instrument de l'amour de Dieu dans un monde qui en a tant besoin. ça s'applique à tout le monde. Puis tu te dis peut-être, mais Larissa, Lambert, c'est des super-héros, ça. Ils font des décisions, ils prennent des décisions spectaculaires. Moi, non. Vous savez quoi? Quand on va continuer cette étude dans deux semaines, on va faire la suite de Romains 12. Et en fait, Philippe Tappé va m'aider. On va être à deux pour enseigner sur les prochains versets. On essaye quelque chose de nouveau. Mais vous verrez que c'est l'exhortation, elle est vers l'humilité. L'exhortation, elle est vers la simplicité. Parfois, ce renouvellement de l'intelligence nous amène à être juste vraiment réaliste par rapport à nous-mêmes, par rapport aux dons que Dieu m'a donnés. Et je réfléchis à ce que je peux faire de divin en fonction de ma réalité très concrète. C'est parfois des choses très humbles. Puis justement, maintenant, je vais inviter l'équipe de louanges à venir nous diriger. On va faire quelque chose de vraiment simple. Ils vont nous conduire dans des chants d'adoration de Dieu, puis nous, on va lire à l'écran, on va chanter avec eux. Ce sera un culte raisonnable. Ce sera une occasion de répondre avec les voix que Dieu nous a données. Amen.